Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour. Donc, vous êtes en vacances, hein? Ben, je vous souhaite beaucoup de soleil. Alors, on parle beaucoup de croiser les regards, hein, de trouver des solutions qui répondent à des problèmes complexes. L'agrivoltaïsme pourrait s'inscrire dans ce registre. Les agriculteurs vivent difficilement d'un revenu trop juste. De plus en plus, les aléas climatiques les touchent. Et pendant ce temps, les territoires ont besoin de toujours plus d'énergie. Et la France est encore en retard sur ses productions énergétiques à base d'ENR, d'énergie renouvelable. C'est donc de la rencontre du monde de l'agriculture et de celui de l'énergie qu'est né l'agrivoltaïsme, une pratique qui consiste à associer ou à faire coexister sur un même site une production agricole, du maraîchage, de la vigne, des vergers et de manière secondaire une production d'électricité par des panneaux solaires photovoltaïques. On commence sérieusement à en parler, à tel point qu'il fera l'objet d'une attention juridique particulière. Hein. Mais de nombreux groupes revendiquent la paternité de cette idée. Alors nous avons retenu le premier exemple, celui du groupe AQO, le phénix en japonais. Il fonctionne depuis 20 ans sur l'île de La Réunion. Et le modèle est semblable à bien d'autres, mais il se distingue dès le départ par sa philosophie, qui met la technologie au service de l'agriculture, de l'agriculteur, pardon, de l'agriculture aussi d'ailleurs, et non l'inverse. Certes, il fallait fournir de l'électricité toujours insuffisante, mais il fallait surtout maintenir des filières agricoles fragiles et surtout tenir compte du fait que le foncier était rare et ne pouvait être occupé par une unique production. La première centrale sur ce modèle à voir le jour sur l'île et celle de Pierrefonds. Elle a été inaugurée en 2010, mais on y travaillait bien sûr depuis quelques années. Les cultures de nombreuses espèces de plantes à parfum, aromatiques, médicinales, ont été associées à la production d'énergie solaire. On a surélevé, espacé, astucieusement, les panneaux solaires, et peu à peu, la serre devint solaire et anticyclonique. On fait des ombrières fixes, ou dynamique, qui s'oriente selon les besoins de la plante. Et les panneaux sont pilotés à partir d'algorithmes maintenant et s'inclinent en fonction des nécessités d'ensoleillement ou d'ombrage. Les technologies ont largement évolué. Mais écoutons Eric Soto, qui est le PDG du groupe AQO et qui va nous parler de sa démarche et nous l'expliquer.
Alors ça, l'agri-énergie, c'est effectivement, on fait beaucoup de choses chez AQO, on est multi-énergie, c'est-à-dire qu'on fait de l'éolien, on fait du solaire, on fait de la biomasse, on fait de l'hydraulique, etc. Et on fait ça dans maintenant une trentaine de pays, à travers 10 implantations dans le monde. Néanmoins, on va un petit peu se focaliser.
Votre
effectivement.
Produit phare, on va dire. Hein,
oui,
c'est ça.
On est très connu pour ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a 6-7 ans, on est arrivé sur l'île de La Réunion et on en a fait notre laboratoire et on a créé ce concept d'agri-énergie. Alors qu'est-ce que c'est que l'agri-énergie ? C'est assez simple. C'est sur une île. Il y a une problématique majeure, hein, c'est qu'on est dépendant, si vous voulez, des ressources naturelles qui se trouvent sur cette île. Et donc l'idée pour nous, ça a été de ne pas arbitrer entre se nourrir et s'éclairer. Parce que l'espace est limité, donc il y a une contrainte d'espace. Et si on devait utiliser les terres agricoles pour pouvoir produire de l'énergie solaire, il y aura un conflit d'usage sur cette terre. Donc l'idée que nous avons eue a été de ne pas arbitrer.
Et on a mixé les deux alors.
Eh bien, on a essayé de mixer les deux, tout d'abord en intercalant et petit à petit en rajoutant une composante qui a été la création d'une serre anticyclonique. Alors qu'est-ce que c'est une serre anticyclonique ? C'est tout simple, c'est une serre sur laquelle vous avez une partie transparente et une partie en panneau solaire. Elle va résister aux cyclones, comme son nom l'indique, et donc elle va permettre à l'agriculteur de pouvoir cultiver, quelle que soit la saison, pendant les tempêtes tropicales, les périodes où il y a de fortes pluies, etc. On est vraiment dans une approche territoriale, dans le développement d'un territoire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les 50-100 prochaines années. Donc, pour être payé sur nos factures d'électricité sur les 50 ou 100 prochaines années, il est essentiel que ce territoire aille bien, que l'ensemble de l'écosystème fonctionne bien. Donc, on a effectivement financé, on finance l'amorçage de nouvelles techniques agricoles, la permaculture, l'agriculture bio, etc., donc grâce à ce système d'agri-énergie.
Donc, c'est un côté solidaire, effectivement, donc, dans votre démarche, quoi.
Absolument, très solidaire.
Alors, depuis, eh bien, plus de 20 projets de ce type ont vu le jour au sein du groupe AQO à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en France hexagonale et ailleurs dans le monde. Le modèle de l'agrivoltaïsme promu par AQO préserve les rendements agricoles de la parcelle tout en créant une valeur supplémentaire liée à la production énergétique. En face, et face au dérèglement climatique, les panneaux peuvent protéger une partie des cultures contre certains risques comme le gel ou les températures élevées. Cependant, il faut rester attentif aux dérives. Car en cette période difficile pour les agriculteurs, le gain lié à la rémunération énergétique est séduisant. Pour Christian Wigg, qui est directeur scientifique de l'agriculture à l'INRAE, l'Institut de recherche agronomique et environnementale, l'agrivoltaïsme est une bonne idée. Mais il faut maintenir le rendement agricole, et c'est important. Et tout le monde s'accorde sur l'intérêt que représente l'agrivoltaïsme pour les filières. Mais les positions divergent sur le taux de couverture approprié. Pour faire coexister de façon harmonieuse la production de biomasse et la production d'énergie, l'INRAE recommande un taux de couverture autour de 20 à 25%. Mais de leur côté, les énergéticiens qui veulent avant tout produire de l'énergie préconisent un taux compris entre 40 et 45%. Il y a finalement ici un beau problème d'équilibre et de coexistence entre les deux activités. Et l'INRA indique que lorsque le taux de couverture dépasse 20%, il est observé une baisse de la production agricole. Donc on voit un risque se profiler. Pour éviter les conflits, un décret a vu le jour immédiatement mis en cause par France Nature Environnement et sur certains points même par l'INRA elle-même. Étonnamment, le décret d'application est tombé la veille du deuxième jour des législatives. Nous avons posé la question à Maître Ferjou, au cabinet d'avocats Gossement spécialisé dans l'environnement. Maître Ferjou, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes spécialisé sur les juridictions environnementales qui abordent des questions de plus en plus complexes. Voilà. Vous êtes également professeur, je sais, à l'Université de l'Est. Et vous travaillez très en lien avec les énergies renouvelables, en conseil également. Alors, vous travaillez spécifiquement sur le solaire, je crois.
Tout à fait. On accompagne les porteurs de projets qui développent des projets de développement d'énergie renouvelable, éolien et solaire en particulier. Et puis on travaille aussi au cabinet avec un syndicat professionnel qui s'appelle Enerplan. C'est un syndicat qui représente de nombreux développeurs du solaire. Et à travers ce syndicat-là, on a eu l'occasion de suivre avec beaucoup de proximité, j'ai envie de dire, l'encadrement et ces nouvelles règles relatives à l'agrivoltaïsme.
Alors, on voit que l'agrivoltaïsme mêle les problèmes d'agriculture, d'énergie, de foncier, de droit privé, de droit commun. En fait, pour un avocat, on est dans un total systémisme. Hein.
Alors tout à fait. Alors pour bien comprendre la chose d'un point de vue juridique, c'est que l'État et les parlementaires ont pris l'initiative de décider d'encadrer la pratique. Pourquoi ? Parce que avant, les projets photovoltaïques se développaient sur les sites agricoles, mais de manière, selon certains, pas suffisamment encadrée, notamment pour préserver l'activité agricole existante ou qui pourrait être développée.
C'est-à-dire que ça prenait beaucoup de place, quoi, finalement.
Oui, en tout cas,
l'installation des panneaux.
Il y avait c'était des choses qui étaient appréciées, mais il n'y avait pas de règles précises venant fixer des critères. C'est pour ça qu'a été décidé de mettre ça dans une loi, loi d'accélération des énergies renouvelables, et qu'on a eu donc des textes d'application, le dernier, le 5 juillet 2024. L'idée vraiment, c'est plutôt des personnes qui voulaient vraiment préserver l'activité agricole. Hein. C'est bien cela qu'il y a derrière l'encadrement de cette activité-là. Et oui, il y a un certain nombre de critères donc à respecter. Beaucoup.
Alors, avant de d'évoquer tous ces critères et d'entrer dans le cœur du problème, il y a une question que je me suis posée. Oui. Comment se fait-il que la veille du deuxième tour, le 8 juillet, on ait vu un décret, enfin, je ne sais pas exactement quoi, mais en tout cas, on a pris position sur l'agrivoltaïsme. Pourquoi cette hâte?
Alors, pour le terme juridique, c'est un arrêté qui vient préciser quelques éléments. Mais en tout cas, alors oui, le journal officiel de ce week-end a été très chargé en texte. Pour ce texte-là, alors je ne parlerai pas pour d'autres, hein, mais pour ce texte-là, on est sur un texte qui a respecté sa procédure d'élaboration. Hein. Il a été soumis au public, je crois, en mars. Et en fait, pour être vraiment parfaitement honnête, ce texte, il était attendu depuis quelques mois déjà. Donc en fait, sa publication a été retardée. Forcément, avec les enjeux de changement de gouvernement, l'idée, c'est quand même de publier les textes qui ont été préparés par l'ancien gouvernement, le gouvernement actuel, mais qui va changer. Alors, pour ce texte-là, on n'est pas dans la précipitation, on est plutôt sur... on produit maintenant parce que le gouvernement va changer, mais on était surtout déjà en retard de sa publication, pour nous.
Alors, on dit aussi, on lit dans la presse que finalement, la France est très en retard sur ses positions concernant les énergies renouvelables, notamment l'éolien et le solaire, puisqu'elle s'est engagée dans un programme nucléaire. Alors, vous disiez que finalement, c'était l'agrivoltaïsme rencontre... Enfin, c'est pas... On voit que ça rencontre un grand succès. Donc, est-ce que ça va permettre de rattraper ce retard ou bien est-ce que quand on parle de retard, ça inclut déjà cette démarche?
Alors c'est vrai, vous avez raison, la France est en retard globalement sur ses objectifs d'énergie renouvelable. La trajectoire s'améliore, notamment avec le solaire en toiture, mais le constat était fait que le solaire en toiture, les autres énergies ne suffisaient pas, et c'est pour ça qu'il y a une part, c'est vraiment une part de cet objectif général qui est un peu en quelque sorte allouée aux centrales solaires au sol en zone agricole. Est-ce que l'agrivoltaïsme sera une réponse suffisante? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas, c'est l'une des solutions présentées pour l'atteindre, effectivement.
Et alors, ce qui est intéressant, d'après ce que j'ai lu, c'est que c'est moins cher que d'installer des toitures solaires.
Oui, c'est plus rentable pour un développeur et surtout, ça demande un peu... Le bilan effort et avantage est meilleur. Forcément, c'est beaucoup plus facile de faire un projet un projet important que 10 petits, parce que on va avoir du travail qui va être finalement un peu réduit. Et puis, c'est vrai qu'en valorisation d'électricité, ça peut avoir un intérêt. C'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant, qui est un sujet que les syndicats et que l'État cherchent à traiter. Mais effectivement, plus on augmente la surface et plus finalement, ce sont des projets qui sont recherchés par les développeurs.
Alors, je parlais de la position de l'INRAE qui, propose une couverture inférieure à celle qu'aimeraient développer les énergéticiens. Donc, je suppose qu'on a d'un côté une évaluation économique du côté des agriculteurs, puis on a une évaluation économique du côté des énergéticiens. Donc, est-ce que cette proposition de l'INRA vous paraît une bonne solution, un bon compromis?
Alors, je ne suis pas expert, malheureusement, en agronomie et en agriculture. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que ce texte, ces critères-là, je vais bien dire ces critères avec un S, parce que le taux de couverture est l'un parmi d'autres, ils ont été âprement discutés entre le ministère de l'Agriculture, celui de l'Énergie et de l'Environnement, avec les acteurs. les agronomes, etc., etc. Pendant un an, ce sont des critères qui ont fait l'objet d'énormément de discussions. Et ce que je dirais sur le taux de couverture, il y a eu énormément de positions sur celui-ci. Je dirais surtout, au-delà de présenter un aspect technique, c'est que c'est un critère parmi d'autres qui doit garantir que l'activité principale sur la parcelle est bien l'activité agricole, non pas l'activité énergétique. Le taux de couverture est un critère pour le préserver, mais il y a aussi des critères de rendement agricole. C'est-à-dire que si le rendement n'est pas suffisant, eh bien on n'est pas un projet agrivoltaïque. Il y a des critères de taux d'occupation, etc., etc. Il y a aussi critères de revenu durable, qui est un critère important pour l'agriculteur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà des discussions du taux de couverture, et chacun a son expertise et son approche par rapport à cela, on est face à une multitude de critères, et je vous rejoins, qui ne seront pas faciles à mettre en place, parce que c'est assez complexe, mais cette multitude de critères doit en principe faire que l'activité agricole soit l'activité principale sur le terrain. Et puis j'ose imaginer que s'il y a des, on va dire, des dérives, des constats que ça ne fonctionne pas, le texte pourra effectivement évoluer. Mais je pense que pour l'instant, on est sur l'application de plusieurs critères qui devraient garantir cet équilibre qui a été décidé, cet encadrement, pour obtenir des projets qui soient vraiment en synergie.
Alors, est-ce que vous avez déjà été finalement sollicité par des agriculteurs qui étaient en désaccord comment vous faites, quoi, en gros ?
Alors, les agriculteurs, historiquement, les chambres d'agriculture sont en tout cas très vigilantes aux projets photovoltaïques sur terres agricoles. Ce sont vraiment elles qui défendent les intérêts des agriculteurs dans les départements. Et une application vraiment rigoureuse, hein, parce qu'on demande leur avis est très difficile, favorable et très difficile à obtenir. Ce sont les projets vraiment très très bien ficelés vis-à-vis de l'activité agricole qui sont désignés. Il y a effectivement une inquiétude. Après, on a les deux côtés. On a aussi le côté d'un agriculteur ou alors un propriétaire ou un exploitant qui n'arrive plus à faire telle activité sur tel terrain, et qui peut voir aussi le projet agrivoltaïque comme finalement lui apportant un service sur un terrain qui n'a pas forcément une valeur agronomique très forte, mais lui apportant un service qui permettra de faire de la coactivité et qui permettra peut-être de continuer une activité alors que peut-être que ce terrain-là, il allait l'abandonner.
Par exemple, qu'on voit fleurir ici en Occitanie énormément de projets, parce qu'on sait que la viticulture était gravement menacée par des tas de choses. Et finalement, cette solution un peu hybride permettrait-elle d'aller vers le sauvetage des agriculteurs, comme vous venez de le dire ?
En tout cas, c'est un petit peu l'idée. Alors, ce n'est pas la bouée de sauvetage. Hein. L'idée, c'est quand même que l'agriculteur continue l'activité agricole. Mais il y a certains terrains, j'ai pu en voir certains terrains qui, s'il n'y a pas le projet énergétique avec les panneaux au-dessus et le service que ça peut apporter, ne seraient pas exploités au niveau agricole. Donc ça peut être effectivement une solution. Mais attention, on est toujours sur une notion d'équilibre, de mesure. Et l'idée, c'est évidemment pas de voir tous les champs de France et notamment de votre région couverts par des panneaux photovoltaïques. On est dans des proportions qui sont assez relatives sur l'étendue des panneaux qu'il pourrait y avoir dans nos campagnes.
Alors, un des problèmes qui est soulevé par France Nature Environnement, c'est que de toute façon, même si au cours d'une de vos plaidoiries, vous arriviez à prouver que des panneaux ont été installés au-delà d'une couverture adéquate et qu'on enregistre des pertes, est-ce qu'on pourrait démonter les panneaux
Ça, ça fait partie de la nouvelle approche de l'encadrement. Comme je vous l'ai dit, avant, il n'y avait pas beaucoup d'encadrement. Maintenant, il y en a un. Et au-delà des critères qui sont fixés, il y a vraiment un sujet sur et une attention particulière sur l'exécution. Enfin, en tout cas, le contrôle continu et le contrôle continu du maintien de l'activité agricole pendant la vie du terrain et de l'exploitation énergétique et agricole. Et il y aura des contrôles périodiques, des rapports seront à faire, et si on s'aperçoit que effectivement l'activité agricole est un peu en baisse, qu'elle ne devient plus l'activité principale sur le terrain et qu'elle même qu'elle disparaît, là, ça, le rôle ce sera de l'administration de venir contrôler tout ça, de dans un premier temps de dire à l'exploitant et à l'agriculteur qu'est-ce qui se passe, merci de redresser cela, et puis à terme, hein, au bout d'une certaine procédure, le démantèlement de l'installation n'est pas exclu. Je ne sais pas dans quelle mesure, parce que ce sera des pratiques, il sera mis en place, mais il y aura une vraie surveillance du maintien de l'activité agricole tout au long de la vie du projet. Ça fait partie aussi des avancées majeures de la loi et des textes d'application qui ont été pris.
Alors, c'est très important de la possibilité de retourner en arrière, évidemment. On est toujours un peu sceptique par rapport à cela, mais on s'aperçoit toujours que c'est difficile. Mais bon, c'est important en tout cas que ce soit dans la loi. Alors maintenant, l'agriculteur, qu'est-ce qu'il gagne dans cette affaire? Parce que l'énergie qui est produite par les panneaux, c'est l'énergéticien qui en bénéficie et qui rentabilise finalement, je suppose, son installation.
Tout à fait. Alors, il y a plusieurs modes. Hein. L'agriculteur, il pourrait être aussi co-actionnaire de la société qui bénéficie de l'électricité. C'est l'une des solutions. Mais ce n'est pas forcément la plus répandue. Le principal avantage pour l'agriculteur, et c'est l'idée qu'il y a derrière l'agrivoltaïsme, c'est que d'abord, l'installation lui apporte un service agricole, que ce soit pour le bien-être de ses animaux, en termes d'irrigation, on en a parlé un petit peu au début, en termes de gestion des aléas climatiques. L'idée, c'est que son activité agricole qu'il a sur le terrain soit plus facile à exercer qu'avant. Ça, c'est la première chose. Et puis après, il y a vraiment une logique derrière, un peu de partage de la valeur, qui se fait sous différentes formes, potentiellement. Comme je l'ai dit, il peut être actionnaire, mais l'énergéticien peut aussi lui demander certains services spécifiques vis-à-vis de la surveillance de l'installation, de son entretien, etc. etc. Mais l'idée majeure de l'agrivoltaïsme, c'est que le premier service apporté à l'agriculteur, c'est bien les panneaux eux-mêmes qui vont l'apporter et qui devraient, normalement, si tout se passe bien, améliorer soit la qualité de sa production, soit le rendement de sa production.
Oui, c'est ça. On dit, par exemple, qu'il aura peut-être un petit peu moins à utiliser de produits phytosanitaires ou que ça va un peu le protéger.
Oui, et puis en termes d'irrigation aussi, et puis les aléas sécheresse, il y a des études.
Ah oui, en termes d'irrigation, c'est très important, parce que surtout dans des zones comme chez nous, où on voit se profiler de grosses sécheresses, effectivement.
Tout à fait, ça peut faire de l'ombre aussi à des animaux ou des cultures. Hein. Ça peut forcément, on sait qu'entre 10h et 15h, ça peut facilement griller une plante. Si entre la plante et le soleil, il y a un panneau qui vient un peu occulter cette lumière-là parce que l'angle est mis de telle façon que ça va la protéger. Voilà, l'aléa climatique, c'est à la fois la chaleur, mais aussi les fortes intempéries que l'on peut subir, grêle, orage, pour des cultures. Tout ça, ce sont des services qui peuvent être apportés, mais tout ça est bien affiné au cas par cas. Mais c'est vraiment l'idée derrière de l'agrivoltaïsme. Et puis, après, ce sera la mise en place des projets qui nous dira, on aura un peu plus évidemment de données une fois que les projets se mettront vraiment en place sur le retour et l'intérêt et la valeur, la proportionnalité de l'intérêt que apportera les panneaux sur ces projets-là.
Alors, je suppose, parce que vous êtes très au courant et que vous suivez l'installation de ces projets, ils fleurissent vraiment beaucoup, on en voit beaucoup.
Alors
vous avez une idée d'un chiffre, par exemple?
C'est très difficile aujourd'hui parce que vraiment, on est au tout début du nouveau cadre juridique. Hein. Si vous voulez, il est applicable depuis, de mémoire, mai 2024. Ça veut dire que là, les projets, pour l'instant, ils sont seulement déposés dans les administrations. Alors, il y a effectivement les anciens projets, mais qui, eux, ne répondent pas aux conditions du nouveau cadre juridique, hein, si vous voulez. Donc, il y a les anciens projets, certains, et comme ceux de la société qui s'est présentée, sont des projets agrivoltaïques. Mais ils n'ont pas nécessité de répondre à tous ces critères-là. Et on en voit de plus en plus fleurir sur de l'ovin, de la culture maraîchère particulière, ça arrive de
plus en plus. Des vergers même, chez nous, on voit même des vergers d'abricots, etc.
Vignes, abricots, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec le nouveau cadre, les nouvelles règles, c'est tout récent. Un projet, pour qu'il soit validé en préfecture, ça prend minimum un an. Donc les projets, on va dire, agrivoltaïques à la suite de l'encadrement juridique, on va les voir d'ici un an au plus tôt. Donc on a encore, il y a encore un peu de voilà. Ce qui se passe, c'est que voilà, il y a beaucoup de demandes parce que on cherchait à peaufiner et il y a beaucoup de demandes déposées. Combien il y aura de dossiers autorisés, ça c'est les services de la préfecture qui vont arbitrer tout cela. Mais en tout cas, on est dans une phase pour l'instant vraiment de début d'un nouveau modèle d'agrivoltaïsme sur nos terres agricoles.
Bah écoutez, en tout cas, merci. On va suivre l'évolution de ce modèle qui est en train de naître et qui semble extrêmement intéressant. Et à la limite, il n'y a pas trop de risques sur le plan énergétique. Ce qui va être à suivre sur le temps, bien sûr, ça va être la manière dont l'agriculteur peut y gagner. Et puis surtout, comment va réagir la biodiversité, comment va réagir le sol, comment tout cela va se combiner. Et on est de nouveau dans une espèce d'alliance climat-biodiversité, voilà, une manière nouvelle de voir un peu les choses. Merci en tout cas à vous et bon courage.
Merci beaucoup.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.